Donc, d'entrée de jeu, on fait ces expulsions des obstacles. L'obstacle à ne pas reconnaître le dharmakaya, l'obstacle à ne pas reconnaître le sambhogakaya, l'obstacle à ne pas reconnaître le nirmanakaya et l'obstacle à ne pas reconnaître leur coémergence. On voit aussi une petite cloche, le dessin d'une cloche. Ça veut dire qu'on prend la cloche et le vajra. Vu que vous avez déjà pris des initiations, vous êtes habilité à avoir une cloche et un vajra. Vous êtes détenteur, ne serait-ce que d'une seule initiation tantrique. Vous êtes habilité. Et même si un grand gourou vous dit non, vous n'avez pas le droit, tu le laisses parler. Voilà, vous êtes détenteur, ça ne regarde personne. Par le fait de maintenir le vajra dans la main droite, la cloche dans la main gauche, vous optez pour une vue de la coémergence de sagesse, clarté, sagesse, compassion, sagesse, équanimité, sagesse, et ainsi de suite. Vous voyez, toutes les coémergences sont là. Des fois, on dit simplement vacuité, méthode. Méthode, ce n'est pas une technique. Méthode, c'est le fait de la sagesse, de la vacuité. Cette vacuité est probante, comment on peut dire, patente. Vous voyez, dans méthode, il faut penser à quelque chose, c'est patent quoi. C'est-à-dire la vacuité a une méthodologie, comme par exemple la lumière. La lumière est invisible. Mais on peut savoir que la lumière est en œuvre du fait qu'on voit les choses. Mais on ne pourra pas trouver la nature de la lumière. Quand on voit un arc-en-ciel, qu'on voit que la lumière est en œuvre. Et le spectre, d'accord? Ben, le spectre, c'est la preuve de la méthode de la vacuité. Vous suivez? Il faudrait trouver un autre mot que méthode, parce que beaucoup de gens pensent que c'est les pratiques. Ce serait une méthodologie, une technique, voilà. L'œuvre, c'est l'ouvrage, on pourrait dire. La vacuité est en ouvrage. La vacuité des phénomènes permet aux phénomènes d'être en ouvrage. Donc ça, en prenant ça, vous affirmez déjà, vous Samaya, votre responsabilité de détenteur. On n'oblige personne à faire les tantras, hein. Mais si vous voulez faire un tantra, il faut le faire bien, quoi. Vous assumez, vous n'y arrivez pas, vous dites je n'y arrive pas, hop, vous coupez l'obstacle d'un jeu en soi qui serait nul, de quelque chose qu'il faudrait maîtriser, et ainsi de suite. Vous voyez, déjà les imputations. Et là, on prend l'attitude Vajra. La coémergence de œuvre et vide, vacuité, on le retrouve dans le mudra de Vajradhara, avec les bras entrecroisés, aux poignets. Ici, on fait un mudra avec le Vajra, qui est ce mudra-là, qui est le mudra qui subjugue. Alors on dit subjuguer les démons. C'est, comment on peut dire, des formules tirées du chamanisme, etc., ou d'autres formules comme ça. Le démon, c'est simplement nos illusions, la saisie, la soif et l'ignorance. On peut en faire plein d'autres. Voilà. C'est les namtok, les imputations. Donc on subjugue nos imputations et on fait, on ne voit pas sur ce cap, hein, on ferme le vajra ici avec le pouce, l'annulaire et le majeur, voyez, et on fait ressortir l'auriculaire et l'index en l'air. D'accord? Ça fait très distingué. On pose la main sur le genou droit, le bras droit, pas crispé, mais droit, faisant signe sur la terre, vers le sol. C'est genre, tais-toi. Faire taire nos namtok. Et ensuite, on met la cloche au cœur et on fait sonner. La clarté, hein, la cloche a un son clair. Une pétillance, c'est la clarté de cette vacuité. La vacuité, la réalisation de la vacuité est la preuve. La vacuité fait preuve de son œuvre autour de nous. Le fait d'entendre, c'est le fait de la vacuité. Le fait de voir est le fait de la vacuité. Le fait de savoir, le fait de penser est le fait de la vacuité. Vous voyez? La vacuité est matricielle de toute possibilité. C'est un champ de possible. À nous de savoir, d'être maître de quel possible, soit les enfers, soit l'éveil, quoi. Donc par la cloche, on se rappelle la clarté, la lucidité, être dans la présence, et on récite le mantra. Om Sumbani, Sumbani, Hum Hum Pe, Triana, Triana, Hum Hum Pe, Triana Paya, Triana Paya, Hum Hum Pe, Anayao, Bhagawan, Vidyaraja, Hum 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 Pe. Et on fait trois fois. Des fois, j'aime bien le faire cinq fois pour envoyer aux cinq Dhyani Bouddha. Il y a une autre façon aussi de procéder. C'est faire une pirouette du poignet droit avec le danger et désigner les directions. À gauche devant soi, à droite devant soi, à droite derrière soi, à gauche derrière soi et au centre. D'accord ? Ça, j'aime bien le faire, ça aide. Le geste va nous obliger à générer une attitude. Ne croyez pas que le geste compte, juste, d'accord ? On n'est pas des chamans. Et je ne pense pas que les chamans pensent comme ça. Ce n'est pas sympa que je dise chaman, mais des gens qui se croient des magiciens, Harry Potter, voilà. Je fais Om Sumbani Sumbani, vous voyez, etc. Et puis même si ça, c'est le cas, on s'en fout. Nous, on veut réaliser la nature de l'esprit. On ne veut pas avoir un pouvoir sur le monde ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est, par ce geste, ça nous implique une présence. Qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi ? Un regard sur soi. Donc automatiquement, hop, l'attitude Vajra. Et l'attitude, pourquoi ? Pour couper tout obstacle, mais quel type d'obstacle ? Et ainsi de suite. C'est un travail, une gymnastique. Après, on s'habitue, on se familiarise. Il ne faut pas prendre des mauvaises habitudes, quoi. Il faut tout de suite se rappeler la vue pure. La vue dénuée de discrimination et donc de nam-tok, d'imputation. Le geste, c'est une chose, parce qu'on parle de mudra, on traduit mudra par geste. Mudra, c'est l'eurythmie, au sens grec. L'eurythmie, c'est-à-dire une combinaison du geste, de la voix, la parole, et de l'attitude mentale. Quand ces trois-là, il y a une chorégraphie tantrique, si j'ose dire, contemplative. Il n'y a pas que les tantras. Hein. Dans tous les forces de cérémonie, hein, il faut arriver à cette combinaison, ce yoga, hein, du corps, de la parole et de l'esprit. Et ça, ça s'appelle un mudra. Et le meilleur des mudras, c'est le Mahamudra, celui où on est en la nature même de l'esprit. Le geste, c'est le geste du corps dans la posture Virocana. La parole, le verbe, c'est l'extinction de tout discours, qui fait que le prana se réunifie à l'esprit. Et le Mahamudra de l'esprit, ben c'est la nature de l'esprit, être à même soi-même, à même la nature de l'esprit. Donc Mahamudra, hein, c'est aussi un mudra où il y a une eurythmie, hein, des trois qui fait notre individu, corps, verbe et esprit. Dans la vie de chaque jour, on fait des mudras constamment, spontanément. Quand on a l'attitude, une attitude mentale, une intention mentale de menacer quelqu'un, eh ben, on va pointer un coup de poing, vous voyez, on va fermer le poing, on va menacer la personne, ou alors l'index, en montrant attention à toi, et on va voir la parole qui va s'accompagner. Et là, on est très authentique. On est en eurythmie, en yoga, on est très cohérent. Et quand on est très cohérent, c'est très persuasif. Alors, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à frapper, hein, mais des fois, on peut être très persuasif. On a connu ces moments où on est très aligné. Vous voyez, il y a un alignement. J'emploie le mot eurythmie. Il y a des danses eurythmiques chez les anthroposophes, mais c'est un terme grec très important. Je prends du temps, d'accord, ça va ? Bien sûr, à écouter, c'est toujours plus fatigant que d'enseigner. Mais c'est enregistré, donc vous pourrez réécouter. On va prendre nos cloches, nos dorgés, et on va s'entraîner. Accompagnez-vous toujours de cloches et dorgés pour un tantra. Om Sumbani, Sumbani, Hum Hum Pe. Om Triana, Triana, Hohumpe, Tirnapaya, Tirnapaya, Hohumpe, Anayao, Bagawal, Vidyaraja, Hohumpe. Les quatre Hung, le quatrième est l'apogée. Bhagavan Vidya Raja, Seigneur Vidya, Seigneur de connaissance, de science. Le Seigneur Raja, au sens de l'esprit, c'est l'excellence de la science, d'accord ? La réalisation de l'unification des trois premiers. C'est le top, le moment de l'alignement. Vidya Raja, c'est-à-dire on se présente en tant que Vidya Raja. C'est les terminologies, hein ? Vidya Raja, c'est on est dans l'alignement. L'excellence, oui, l'éminence, on dit Seigneur des fois, hein, d'accord, mais dans le sens l'éminence, le top de l'aliment, tac, ça y est, l'aliment est fait. La nature indivise est là, pointée, on est en présence. Ça peut être aussi la nature indivise des trois temps, passé, présent, futur, un non-temps, quatrième temps. C'est le sens de Vidya Raja. Une fois qu'on est intègre, on a intégré la réalisation, on devient ce qu'on appelle Vidya Dhara. Dhara comme Vajradhara. Ça veut dire détenteur de la science, la gnose, Vidya Dhara. C'est des titres qu'on donne souvent, c'est des termes plus consacrés dans, chez Nyingmapa aussi. Il y a 8 niveaux de Vidya Dhara en fonction des 8 consciences et ainsi de suite. Ouais. Tout est dit hein, dans ce mantra. C'est ça l'intérêt d'un mantra, c'est du sténo, compilé, parce qu'on n'a pas le temps de faire des commentaires, et tout de suite, le rappel à la nature de l'esprit. Créer l'attitude adéquate, tant bien que mal, bien sûr, on débute, on s'entraîne. Pratiquer, ça veut dire s'entraîner. Hein. Le jour où on y arrive, on n'a même plus besoin de pratiquer. Hein. Voilà pour l'expulsion des obstacles. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez libérer le micro. Ça va ? Il n'y a plus d'obstacles, c'est bon ? C'est compris l'idée d'approche. Hein. C'est un peu comme des films initiatiques. D'accord ? On vient de l'extérieur, on adopte des attitudes, la considération que des gens nous ont précédés, qui aujourd'hui nous permettent d'avoir un enseignement authentique, tout chaud, on dit, hein, des fois, qui a la chaleur... qui a encore la chaleur de la force. Et tout doucement, ben, on va commencer à rentrer dans le mandala. Donc dans le rosaire, hein, c'est expliqué, hein, c'est succinct, hein, concis, hein, le sens de mandala. Que ce soit dans le mandala yoga, le mandala tantra, le mandala des cinq taras, tout type de mandala, hein. Même quand on parle de la pratique de Shenrezi, Shenrezi a un mandala. Et l'idée, c'est pénétrer ce mandala pour aller jusqu'au centre. Avant de rentrer dans le mandala, on écarte tout obstacle. Si on n'arrive pas à écarter d'obstacle, on n'est pas prêt de rentrer déjà dans le mandala. Les graphismes qui représentent les mandalas sont souvent donc entouré de ce qu'on appelle un cercle de protection. Un cercle de protection, et des fois on les appelle les 8 cimetières. Le cercle de protection, c'est de l'autoprotection. C'est-à-dire, la nature d'esprit voudrait bien ne pas se protéger, que tout le monde puisse obtenir la nature d'esprit. Mais simplement, c'est que cette part primordiale de la nature d'esprit ne peut pas être atteinte si, justement, on a nos naptoques, nos discriminations, on la saisit. Ça ne se fait pas comme ça. Donc ce n'est pas le fait qu'il y aurait quelque chose qui devrait se protéger ou nous-mêmes on devrait se protéger. Pour traverser un de ces 8 cimetières, le cercle des 8 cimetières, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut mourir à soi-même, il faut commencer à abandonner, ne serait-ce qu'une saisie ou nos saisies, ou arriver à abandonner les mécanismes de la soif ou les justifications, les prétextes de nos discriminations. C'est le principe de l'abandon. C'est des petites morts. Hein, bien sûr, ce n'est pas énoncé comme ça. Oh, d'accord, j'abandonne, voilà, etc. C'est faire des promesses comme ça. C'est réellement un mécanisme de l'âme. Donc rentrer dans le mandala, c'est commencer à pénétrer le premier cercle qui est appelé les 8 cimetières. Et ces 8 cimetières, c'est l'abandon à toute saisie, à chaque instant, des 8 consciences. Rappelez-vous, 8 consciences. 8 bodhisattvas, 8 consciences. Alors, les 8 consciences et les 8 domaines de conscience. Les 8 consciences, c'est les modalités d'une science qui s'adapte aux phénomènes qui se présentent. Et ensuite, le domaine, c'est le domaine du Dharma Dhatu, le domaine de la phénoménologie. Et ici, la sphère d'expérience, c'est un charnier qui montre que rien n'a d'existence propre. Il faut non pas se résigner, c'est pas un abandon dans le genre « je jette l'éponge », j'abandonne toute soif qui est finalement une aberration, une ironie, quoi. On abandonne toute perte de temps, toute énergie futile, les 8 dharmas mondains, les préoccupations où on met beaucoup d'énergie à avoir de la gloire, peut-être même l'immortalité du corps, enfin des choses comme ça. C'est beaucoup d'énergie à un moment. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, la vieillesse, la mort. Tout doucement, dans le mandala, enfin le graphisme, explique bien ce qu'est un mandala. Abandon, mourir à soi, et ça se fait avec une résolution, une forte résolution de départ. Donc s'interroger sur la force de nos aspirations. L'aspiration est souvent contaminée de lubies, de séduction. Ah, j'aime bien le bouddhisme, voilà, etc. D'accord ? Mais il y a une grande part de pollution, de fascination, de séduction, de croyance, d'auto-persuasion, etc. Qui fait que tant que ça marche, on est content. Hein, et la moindre contrariété, oh ben je croyais que ça, avec le bouddhisme j'aurais pu être heureux, voilà, etc. Donc dans l'aspiration, méfiez-vous, hein, il y a plein de couches. Et c'est quand il y a des pannes d'aspiration qu'on a la possibilité de l'analyser. Si on veut chercher la vérité, quoi. Si on s'arrête à une panne d'aspiration et se persuader, oh ben, je ne devais pas faire ça, je vais chercher autre chose, c'est qu'on cherche toujours des réponses à l'extérieur, quoi. Donc ça, c'est le principe bouddhique, hein. Une contrariété, je constate, j'analyse et je cherche les causes. Et les causes, c'est il y a une illusion quelque part. S'il y a une petite contrariété morale, existentielle, voilà, etc., on pointe le doigt sur une illusion. C'est un intérêt. Mais si on obéit tout de suite aux symptômes et puis essayer de pallier aux symptômes, soigner les symptômes, effectivement, hein, on fera toujours que aller à gauche, à droite et attendre de l'extérieur des réponses. Donc dans abandon, traverser un cimetière, ça demande la force, ça demande ce qu'on appelle les 7 facteurs d'éveil. D'accord ? Vous les connaissez. Mais là-dedans, au moins la détermination, samkalpa. Et la définition de l'objet de notre détermination, ce qu'on appelle l'éveil, et ainsi de suite. Ça demande une détermination, mais ça demande aussi, ce que j'aime bien, c'est appuyer sur l'idée de délicatesse, de pudeur, de respect. Respect de soi. Respect, on ne vient pas avec ses gros sabots, quoi. On n'est pas dans le mythe du guerrier qui vient avec son gros sabre, je vais couper les cimetières, je n'ai pas peur, même pas peur. Ça, c'est de l'arrogance. L'abandon s'accompagne de absence d'arrogance, de respect. On connaît ces moments où on a abandonné quelque chose, on est totalement ouvert. On va avoir un sentiment de réceptivité. C'est assez facile quand on est devant un enfant. On abandonne nos conventions d'adultes et on devient gaga, vous voyez. C'est aussi simple. Ah, on pourrait être ridicule devant les autres adultes, mais tout le monde sait ça. On ne se moque pas de quelqu'un qui fait « Ah, mon ami, vous voyez. D'accord. Parce qu'on le fera tous un jour. Donc, vous voyez, dans l'abandon, il y a cet aspect d'approche non arrogante. Parce qu'on n'a pas la soif. On doit abandonner la soif. La soif de son image, de son notoriété, de son autorité, et ainsi de suite, vous voyez. Donc plutôt que de venir avec des mots de guerrier, comme ça, je dois tuer l'ego, voilà, etc. Non, même dans Tcheu, hein, on dit couper. Couper pour montrer que ça ne saigne pas. Mais coupe toujours. Vas-y, coupe. ça saigne pas. Vous voyez, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort. On parle de cimetière, mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas de mort, justement. On a tous vécu des moments comme ça. Comment on dit, qui ne tue pas nous grandit. Vous voyez, ben, on a crevé un abcès, puis on s'est vu, mais finalement, ça fait mal au moment, mais je me sens bien, soulagé. Vous voyez, j'ai crevé un abcès. J'ai une écharde dans l'âme, j'enlève l'écharde, ben, l'âme continue de vivre encore mieux. Et puis l'âme n'est pas morte, vous voyez. Toutes les épreuves qu'on a vécues, traversées, si on le fait avec respect, eh ben, on voit bien qu'on grandit et on ne meurt pas. On grandit dans le sens, on s'illumine, quoi. On a vu une faiblesse, on devient fort. On a vu une mocheté, on devient beau, vous voyez. On a vu une hypocrisie, on devient sincère, vous voyez. C'est ça l'idée du cimetière. Et pas genre, bon allez, je vais me sacrifier et je serai récompensé. Ça, c'est les masos, hein, qui vont être dans la repentance, la pénitence, etc. Et ils trouveront jamais de punition assez forte après un jour. Donc après, ils sont irrécupérables, quoi. Ils sont dans la pénitence, ce que j'appelle le syndrome du pénitent, hein, qui était vraiment le syndrome de base de Milarepa. Il s'en est bien sorti, heureusement. Donc traverser cette chose-là, ben, c'est tout ce qu'on fait, même lors d'une initiation. Ce qu'on fait dans l'initiation, on va le récapituler par la pratique du tantra. On récapitule une initiation. Donc toute cette démarche, jusqu'à... Voilà. On est à la lisière des cimetières. Eh bien, on affirme, j'aspire à l'éveil. Et la vue de la vacuité. Il n'y a pas quelque chose comme étant de la mort. Il n'y a pas quelque chose comme étant un cimetière. Ça se présente comme tel. Ce qui fait ce phénomène... Eh ben, de l'écharpe qu'on enlève et puis on est soulagé. Abandon, soulagement, réalisation. Voilà, tout ça dans les expulsions des obstacles. Om Sumbani, Sumbani, Hum Hum Pe, Triana, Triana, Hum Hum Pe, Triana Paya, Triana Paya, Hum Hum Pe, Anayao, Bhagawan, Vidyaraja, Hum Hum Pe. Pe, c'est point barre. Le saut, point barre. Vous allez dans un magasin, vous voulez acheter bio. Vous voyez le sceau AB, par exemple, point barre. C'est le sceau, ok, je prends. Vous voyez, il y a un moment où la pertinence ne tergiverse pas. Abandon, point barre. Cet aspect péremptoire, c'est peut-être pas le bon mot, mais affirmatif, scellé, une fois pour toutes. Dans le Vajra, hein, c'est pur et dur, comme disait Shogun Trungpa. J'ai pas beaucoup lu Shogun Trungpa, mais j'ai lu un livre. Quoi. Les gens disaient, c'est pur et dur. Pur et clair. Une intransigeance vis-à-vis de la saisie, la soif, l'ignorance, nos prétextes, vous voyez, une paresse, notre remise à demain, nos petits caprices, voilà, etc. Voilà pour l'expulsion des obstacles.